Du coup, je vais vous lire un extrait de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un auteur qui, des fois, m'a un peu énervée sur certains livres, mais sur les derniers livres que j'ai lus de lui, notamment les Chemins noirs et La Panthère des Neiges, je trouvais qu'il arrivait bien à retranscrire des ressentis ou des sensations qu'on peut avoir. Et quand on les voit écrites, on se dit « Ah mais oui, c'est exactement ça que je voulais dire ». Du coup, là, La Panthère des Neiges, c'est un voyage au fin fond du Tibet qu'il a fait avec Vincent Munier et Marie Amiguet, à la recherche des yaks sauvages, des loups et aussi de la panthère. Du coup, mais par contre, l'extrait que j'ai choisi, il va parler un peu des enfants tibétains chez qui ils habitaient là-bas entre deux observations. Et voilà, c'est un peu sur le rapport de l'enfance à la nature. Et voilà, c'est parti. Les enfants du vallon. Chaque soir, lorsque nous débarquions dans les baraques, les sœurs de Gompa nous prenaient la main, nous menaient au poêle. Pendant des années, elles apprendraient les gestes de leur mère pour les transmettre ensuite à leurs propres filles. Nous les aidions à porter l'eau, à la mode asiatique. Deux seaux suspendus aux extrémités d'une canne de bambou. La charge était lourde pour mon dos abîmé. Jiso, 30 kilos, ne rechignait jamais à accomplir les 200 mètres entre les rivières et les baraques. Gompa m'imitait en grimaçant, claudiquant, cassé en deux. Puis nous somnolions dans la chaleur de la pièce. Le Bouddha souriait. Les bougies diffusaient une odeur blanche. La mère versait le thé. Le père, dans ses fourrures, se réveillait de sa sieste. Le poêle était l'axe. Autour, les constellations familiales. L'ordre, l'équilibre, la sécurité. Ce jour-là, les trois enfants vinrent me rejoindre, menés par Gompa, le plus petit et le plus démoniaque. Ils allèrent droit sur ma position, chantant, caracolant, les vestes débraillées, les cheveux emportés par le vent. Ils marchèrent exactement vers les blocs de rochers où je m'étais cachée, ruinant ainsi mes efforts de dissimulation et prouvant que mes camouflages n'étaient pas au point. Du fond du vallon, ils avaient repéré ma cache à 500 mètres de distance. Ils s'installèrent avec moi, vifs, ravissants, ne connaissant du monde que ce vallon et de la vie que les journées limpides, côtoyant les bêtes fauves et les yaks assagis. À 8 ans, ces mômes avaient la notion de la liberté, de l'autonomie et des responsabilités. La morve au nez, le sourire en coin, un poil comme seconde mère et un troupeau de géants à charge. Ils craignaient les panthères, mais portaient un petit poignard à la ceinture et se seraient défendus en cas d'attaque. En outre, ils conjuraient les peurs par leurs chants gueulés dans l'air glacé. Ils n'avaient pas de conseiller d'orientation, ils savaient courir la montagne. Ils circulaient chaque jour devant des promesses de défilé conduisant à des cols ouverts sur l'horizon. Ils échappaient à l'infamie de nos enfances européennes, la pédagogie, qui ôte aux enfants la gaieté. Leur monde avait ses bordures, la nuit ses froidures, l'été ses douceurs, l'hiver ses souffrances. Ils peuplaient un royaume crénelé de tours, percé d'arches défendues de parois. Ils ne regardaient jamais d'écran, et peut-être leur grâce était-elle proportionnelle à l'absence de haut débit. Munier, Marie et Léo, cachés au pied d'une paroi de la rive droite, vinrent rejoindre notre groupe. Alors, abandonnant toute chance de surprendre la panthère, nous tîmes salon dans les rochers jusqu'au soir. Munier montra aux enfants le tirage papier d'une photo qu'il avait prise une année auparavant. Au premier plan, un faucon, couleur de cuir, posté sur un rocher de lichen. En arrière, légèrement à gauche, derrière le contour du calcaire, invisible à un regard non prévenu, apparaissaient les yeux d'une panthère fixant le photographe. La tête de l'animal s'incorporait au roc et l'œil mettait un temps à la distinguer. Munier avait réglé ses focales sur les plumes de l'oiseau sans même soupçonner que la panthère l'observait. Ce n'est qu'en étudiant ses photos deux mois plus tard qu'il s'était aperçu de sa présence. Lui, le naturaliste infaillible, avait été berné. Quand il m'avait montré la photo, je n'avais rien distingué d'autre que l'oiseau, et il avait fallu que mon ami me pointât du doigt la panthère pour que je perçoive l'existence de ce que mon regard n'aurait jamais détecté de lui-même, car il ne cherchait pas à saisir autre chose qu'une présence immédiate. Une fois localisée, la bête me frappait à chaque fois que je voyais l'image. L'insoupçonnable était devenu l'évident. Cette photo recelait ses enseignements. Dans la nature, nous sommes regardés. D'autre part, nos yeux vont toujours vers le plus simple, confirment ce que nous savons déjà. L'enfant, moins conditionné que l'adulte, saisit les mystères des arrière-plans et des présences repliées. nos petits amis tibétains ne se firent pas abuser. Leurs doigts se pointèrent immédiatement sur elle. « Ça !» hurlaient-ils. Non que leur vie montagnarde leur eût affûté le regard, mais leur œil d'enfant ne se laissait pas conduire vers la certitude du donné. Ils exploraient les périphéries du réel. Définition du regard artistique, voir les fauves cachés derrière les paravents banals.